France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. From the dusty mesa, a looming shadow. Bonjour, au micro Christophe Biteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Lecourt Grandmaison, politologue français spécialisé dans les questions qui ont trait à l'histoire coloniale et au racisme. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Saclay-Évry-Val-d'Essonne et il a enseigné au Collège international de philosophie. Olivier Lecourt Grandmaison, bonjour.
Bonjour.
C'est la troisième fois que j'ai le plaisir de vous inviter. Vous commencez à être un habitué de cette émission. Mais pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté vos précédentes interventions, pouvez-vous en quelques mots vous présenter ?
Comme vous l'avez dit, je suis donc universitaire, enseignant en sciences politiques et j'ai beaucoup travaillé au cours de ces dernières années sur les questions coloniales en général et plus spécifiquement, entre autres, mais pas uniquement, sur la conquête de l'Algérie et une réflexion sur les singularités, les spécificités, le caractère exceptionnel de la guerre coloniale, des guerres coloniales et de l'État colonial qu'il faut penser, me semble-t-il, comme un état d'exception permanent, ce que j'ai essayé de montrer à travers, d'une part, un ouvrage qui s'appelle « Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial » et également à travers un ouvrage qui porte là spécifiquement sur le droit colonial et plus particulièrement sur le code de l'indigénat algérien et sur ses variantes appliquées au fur et à mesure de l'expansion coloniale française entre 1885 et 1913.
Vous êtes à l'origine d'un appel pour la reconnaissance des crimes contre l'humanité en Algérie commis par la France, que la Libre Pensée, d'ailleurs, en tant qu'organisation a signé, et moi-même, en tant que vice-président, et bien d'autres responsables de la Libre Pensée. Quel est l'objectif de cet appel ?
Alors, tout d'abord, rappeler que cet appel demande effectivement la reconnaissance comme crime contre l'humanité des massacres perpétrés à partir du 8 mai 1945 en Algérie, qui se sont étendus pendant plusieurs semaines jusqu'à l'été 1945, qui sont consécutifs, ces massacres, à une manifestation qui était au départ une manifestation parfaitement pacifique de nationalistes algériens, entre autres, qui demandent conformément au programme de la résistance, l'établissement, on ne peut pas proprement parler de rétablissement, l'établissement des droits et libertés démocratiques pour ceux qu'on appelle encore les indigènes, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, manifestation qui a lieu dans les quartiers européens et centraux de Sétif. À cette occasion, un jeune scout algérien, Saïd Bouzid, est tué par un policier et ça va être le début de ce qui va se transformer assez rapidement en émeute avec des massacres d'une centaine d'Européens. Et pour rétablir l'ordre colonial, les autorités coloniales et le gouvernement provisoire de la République va se lancer dans ce qui n'est plus à proprement parler une répression, mais de véritables massacres. Et rappeler que ces massacres interviennent dans un contexte très particulier. Nous sommes juste au sortir de la guerre. Il y a eu peu de temps auparavant la conférence de Brazzaville qui a eu lieu en janvier-février 1944. Conférence de Brazzaville au cours de laquelle le général de Gaulle et les résistants réunis à Brazzaville fixent les orientations politiques relativement à l'Empire. Pour le dire en ces termes et pour reprendre une phrase célèbre d'un écrivain italien, Tommaso di Lampedusa, dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Autrement dit, il faut réformer l'Empire pour maintenir l'Empire. Et au fond, les massacres du 8 mai 1945 sont la première application de ces orientations définies à Brazzaville, où il s'agit de faire entendre non pas seulement aux Algériens, mais à l'ensemble des colonisés, que s'ils ont quelques velléités d'indépendance, le coût à payer, le coût subi par eux sera considérable. Et il s'agit, au-delà du cas algérien, de faire la démonstration que la France ne lâchera rien relativement à son empire, parce que l'ensemble des forces politiques de l'époque, des gaullistes jusqu'à la direction du Parti communiste en passant par la SFIO, estiment qu'il est absolument indispensable de défendre l'empire pour rétablir la France comme grande puissance européenne et grande puissance mondiale. D'où ces massacres, effectivement.
Une l'unanimité coloniale, en quelque sorte, sur tout l'échiquier politique.
Alors, il y a effectivement un consensus colonial très fort à ce moment-là, y compris...
À gauche.
La SFIO, le ralliement de la SFIO à la construction de l'Empire est ancienne. Et on sait bien que la scission s'est faite dans le mouvement socialiste après la révolution d'octobre, entre autres sur ces bases-là. Relativement à la direction du Parti communiste, et ça concerne spécifiquement l'Algérie, il y a eu cette théorisation élaborée entre autres par Maurice Thorez selon laquelle le peuple algérien était un peuple en formation. Conséquence de cette appréciation, si c'est un peuple en formation, il ne peut pas en l'état demander le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et dans le contexte de l'immédiate après-guerre, effectivement, l'humanité va dans un premier temps, faut-il le rappeler, appeler à la répression des manifestants en forgeant une thèse passablement complotiste, passablement inspirée également des méthodes staliniennes antérieures, notamment en faisant croire que celles et ceux qui manifestent en Algérie constituent une sorte de cinquième colonne au service des débris de Vichy, pour le dire en ces termes.
C'est une méthode que l'on connaît et qui malheureusement a fait ses preuves. Donc le 8 mai 1945, c'est le 80e anniversaire, sinistre 80e anniversaire. Mais avant le 8 mai 45, on a eu toute la colonisation de l'Algérie. Et on a eu un récent scandale, entre guillemets, que révèle selon vous ce qu'on pourrait appeler la controverse à Paty, qui a été sanctionné pour avoir comparé colonisation de l'Algérie et au radour sur Glane. Est-ce que l'on n'est pas là au cœur même d'une forme de mythologie française sur le colonialisme et pour occulter ce qui s'est réellement passé en Algérie depuis le début du colonialisme?
Alors, le scandale à Paty, on va l'appeler ainsi, est évidemment lié aux réactions que ces déclarations ont suscitées. Ce n'est sans doute pas le dernier, mais ce n'est évidemment pas le premier. Il faut le prendre comme un symptôme dans un contexte, depuis la loi du 23 février 2005, de réhabilitation toujours plus importante, significative et agressive du passé colonial français, qui débute donc avec la loi du 23 février 2005, qui est une double exception. Une première exception parce que la France est la seule ancienne puissance coloniale à avoir établi une interprétation officielle de ce passé. Et une autre exception parce que si l'État peut et doit dans certains cas intervenir dans de nombreux domaines économiques et sociaux, il y a bien un domaine dans lequel il ne saurait intervenir sauf à violer les principes dont il se réclame. C'est évidemment le domaine des sciences humaines et de l'histoire en particulier pour établir une interprétation officielle du passé, quelle que soit d'ailleurs, soit dit en passant, cette interprétation. Et rappeler qu'effectivement, de Nicolas Sarkozy à Bruno Retailleau, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, en passant par François Fillon, ces forces politiques ont désormais épousé à peu près l'ensemble des éléments de langage, des représentations et des positions politiques défendues antérieurement par le Front National et le Rassemblement National. Et c'est de cela dont témoignent les réactions très violentes à l'endroit de Jean-Michel Apathy. Précisons que s'il est possible dans certains cas d'établir des rapports et de comparaisons significatifs entre ce qui a été perpétré par la puissance coloniale en Algérie, notamment au cours de la conquête mais pas exclusivement, et au radour sur Glane, préciser une différence de nature qui me paraît fondamentale, c'est que si des crimes contre l'humanité, éventuellement des actes génocidaires ont été commis par la puissance coloniale, l'objectif n'a jamais été l'extermination et la destruction des indigènes, notamment parce que très vite, les autorités coloniales qui entendent faire de l'Algérie une colonie de peuplement sont parfaitement conscientes que pour mettre en valeur, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, il faut de la main-d'œuvre et il faut de la main-d'œuvre indigène, ce qui suppose évidemment de ne pas la détruire physiquement. Là où la division d'Das Reich, responsable de ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, participe d'un régime qui, au moment où se passe ce qu'il s'est passé, est un régime génocidaire qui a exterminé déjà plusieurs millions de juifs dans toute l'Europe et qui a aussi génocidé un nombre extrêmement important de populations roms. Dans certains cas, c'est près de 90% de villages dont les populations roms ont été anéanties. Donc, à la fois des éléments de comparaison qui permettent de conclure à des similitudes dans les actes commis et en même temps une différence de nature absolument fondamentale, essentielle entre deux projets. Un projet colonial qui repose sur l'exploitation des indigènes et une réalisation hitlérienne qui repose sur non seulement la destruction des Juifs d'Europe et des Roms, mais également, on le sait, sur l'extermination par le travail des populations slaves dont il était prévu qu'elles soient anéanties en raison même des modalités très particulières de travail forcé. pensée qui leur était imposée.
Donc effectivement, ça n'est pas un génocide, mais en revanche, il y a bien peut-être crime contre l'humanité, dans certains cas.
Alors, crime contre l'humanité, assurément. Si l'on se réfère à l'article 212.1 du Code pénal français qui définit comme crime contre l'humanité déportation, torture, exécution sommaire, réduction en esclavage, en vertu, et le passage est évidemment extrêmement important, le passage de cet article du Code pénal, en vertu d'un plan concerté, force est de constater qu'effectivement ce qui a été perpétré à partir du 8 mai 1945 en Algérie relève bien d'un plan concerté. Ceux qui ont agi pour massacrer les indigènes ont agi en fonction d'ordres, écrits ou oraux, et ces massacres ont été, faut-il le rappeler, parfaitement assumés et par les autorités algériennes, si je puis dire, c'est-à-dire par le gouverneur général de l'époque, qui est un Yves Châtaigneau, et parfaitement assumé également par le gouvernement provisoire de la République, qui estime que tous les moyens doivent être employés pour rétablir l'ordre colonial en Algérie, dans une colonie dont il faut rappeler qu'elle est pensée à l'époque, en raison de la départementalisation, comme territoire français. Et l'Algérie qui occupe dans l'espace impérial français une place géopolitique très particulière, mais aussi une place politique et symbolique absolument essentielle que la France n'est à l'époque, évidemment, et après d'ailleurs, absolument pas prête à perdre. Et ce pourquoi elle va d'ailleurs mobiliser tous les moyens possibles pour rétablir ce qu'il estime être l'ordre colonial dans ce territoire.
Et ce qui aboutira à ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie. Si je ne m'abuse, vous devez bientôt, au mois d'octobre, je crois, publier un ouvrage sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est un ouvrage à la fois effectivement sur le sujet, sur ce que j'appelle la mythologie impériale républicaine. C'est un ouvrage plus largement qui porte également sur les origines du roman national républicain. Le titre sera « La fabrique du roman national républicain, origine, usage et actualité ». Et relativement au grand mythe impérial républicain, ce mythe est forgé sous la Troisième République. L'une des figures politiques de ce grand mythe impérial républicain étant évidemment Jules Ferry, lorsqu'il déclare au cours d'un débat célèbre en 1885 que la particularité de la colonisation française, c'est d'être soutenue par cette volonté d'apporter la civilisation aux indigènes qui n'en auraient pas connu les bienfaits. Et on va voir prospérer cette mythologie nationale impériale républicaine qui fonctionne aussi, d'une part, comme valorisation des singularités de la construction impériale française et par opposition à la construction impériale, déjà réalisée évidemment, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, réputée, à la différence de la France, est une colonisation destructrice des populations autochtones, là où la France œuvrerait à leur émancipation et élévation. Et ce grand mythe impérial républicain va traverser toute la Troisième République et rappeler qu'il est aujourd'hui défendu par les forces politiques que j'ai citées tout à l'heure, à l'instant, à savoir les Républicains, mais également défendu par un certain nombre de ce que j'appelle des philo et idéologues, c'est-à-dire des philosophes qui se croient philosophes mais qui ne sont qu'idéologues. Je pense en particulier à Alain Finkielkraut qui regrettait, dans un entretien donné au Haaretz, qu'on enseigne la colonisation que sous des aspects négatifs, et il reprenait la doxa relative à la mythologie impériale républicaine. C'est vrai de Pascal Bruckner, et plus singulièrement, c'est vrai également de Pierre Nora, qui considère que l'une des particularités de la France, c'est l'universalisme, et que cet universalisme a été, écrit-il, au principe de la colonisation française.
Alors effectivement, c'est un sujet qui est plus vaste, on touche au colonialisme, mais également à ce que vous appelez la mythologie française. Quels sont les enjeux politiques de votre... On va appeler ça une déconstruction, d'une certaine façon, peut-être, intellectuelle.
On peut l'appeler déconstruction, nonobstant ce que ce terme hérisse à tort, d'ailleurs. Alors, mythologie impériale républicaine, grand roman national républicain, dont l'une des conséquences est ce que j'appelle, au fond, la thèse immunitaire, la mythologie immunitaire. Ceci pour signifier, alors c'est tout à fait applicable à la question coloniale, qu'en raison de ses prétendues origines, les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme et la République, la France ne saurait commettre de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.
Elle serait immunisée d'une certaine façon.
Elle est immunisée contre cela, et cela fonctionne également pour le racisme dans la mesure où il est là aussi, pour les adeptes du roman national républicain, considère que évidemment il ne saurait y avoir en France ni racisme institutionnel, ni racisme systémique, moins encore racisme d'État, et que si racisme il y a, il est au fond Pour partie résiduelle et d'abord et avant tout le fait non pas d'institutions, non pas de politique publique, mais le fait des individus eux-mêmes.
Eh bien, il nous reste un petit peu plus d'une minute si vous voulez conclure. Il en reste même 2 minutes.
Alors, conclure, oui, parce que nous sommes maintenant à quelques semaines du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Et il me semble dans ce contexte que les gauches politiques réunies dans le nouveau Front populaire seraient légitimes, plus que cela, à intervenir pour demander aux plus hautes autorités de l'État et à Emmanuel Macron en particulier la reconnaissance claire, précise et circonstanciée de ces massacres comme crimes d'État, comme crimes contre l'humanité. D'une part pour obtenir cette reconnaissance et d'autre part parce qu'il me semble que dans le contexte actuel de réhabilitation toujours plus agressive du passé impérial français, il est irresponsable de laisser les extrêmes droites et les droites de gouvernement radicalisés pérorer sans fin sur les beautés supposées de la colonisation et que face à cette bataille culturelle menée depuis très longtemps par les extrêmes droites et politiques aujourd'hui, les gauches politiques devraient répondre pièce par pièce, point par point, pour démonter et déconstruire ce discours idéologique et qui débouche sur la révision, voire dans certains cas le négationnisme d'un certain nombre de crimes particulièrement graves.
Bien écoutez, espérons que vous serez entendu, en tout cas à la Libre Pensée, puisque nous avons signé votre appel. Nous serons présents et nous œuvrerons à notre place pour que, effectivement, les gauches se réapproprient ce combat contre le racisme qui est en train d'être perdu aujourd'hui au profit d'un racisme complètement décomplexé avec le Rassemblement National, par exemple. Je vais donc terminer cette émission en vous remerciant, Olivier Lecourt Grandmaison.
Merci à vous.
Troisième invitation, je pense que ce n'est pas la dernière. Je remercie également la technique Mineta Diawara, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignon. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture des ouvrages d'Olivier Lecourt Grandmaison que vous pouvez vous procurer à la librairie de la Libre Pensée, 10 rue des Fossés Saint-Jacques, Paris 5e, ou commandez via notre site fnlp.fr. L'ouvrage que vous allez publier au mois d'octobre sera bien évidemment en vente également. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission avec Dominique Gousseau sur, cette fois-ci, les crimes de l'Église. Je vous remercie.